On entame la dernière ligne droite de cette émission de ce Soumis Massène Turbo, épisode très absolument exceptionnel avec un petit tour de l'actualité. Cette semaine, il s'est passé pas mal de choses, notamment du côté de chez Pokémon. Eh oui, c'était le Pokémon Presents, le rendez-vous
le 27 février.
Annuel, 27 février, c'est le Pokémon Day, l'anniversaire de la sortie des premiers Pokémon au Japon. Et on a eu plusieurs annonces, à commencer par l'arrivée d'un nouvel épisode de Légende Pokémon. On avait eu Arceus dans le passé. Voilà, quelque chose me dit. On va avoir une ambiance un petit peu plus futuriste. Je sais pas, quelques indices comme ça sur votre écran.
J'ai vu un monument rouillé.
Un monument rouillé qui ressemblerait à la tour Eiffel. Mais oui, ce nouvel épisode se déroulera donc à Kalos, dans la région de Kalos, qui était dérivée de la France, mesdames et messieurs, la France de Pokémon XY.
Eh oui.
Il n'y avait pas eu Pokémon Z. Donc finalement, celui-là, il s'appellera Légende Pokémon ZA.
Ah, c'est
ZA.
ZA. C'est marrant d'avoir le Z. Trois générations plus tard.
Ouais. Alors, ce ne sera pas évidemment le Z tel qu'on se l'imagine, parce qu'il y aura toutes les mécaniques, sans doute, les mécaniques de base de Légende Pokémon, à moins qu'ils révolutionnent complètement le gameplay.
Oui, mais il y aura aussi les mécaniques d'XY, puisqu'on retrouve les méga évolutions.
Exactement. Et Zygarde. Zygarde qui sera au centre des débats, donc le légendaire.
Zygarde sera au centre de la présence des débats.
Le légendaire.
Pas au courant de ce qu'on dit.
Le légendaire de Pokémon XY, l'un des trois légendaires n'avait pas eu droit à son jeu dédié. Ben là, visiblement, il a l'air au cœur de l'intrigue. Pokémon Trading Card Game Pocket, c'est la nouvelle tentative.
Ils ont déjà fait ça.
Oui, plusieurs fois. Ouais. De moult reprises, que ce soit même de base sur Game Boy Color avec Pokémon GB, si l'on veut. Mais là, l'idée, c'est à nouveau d'en faire un véritable jeu service. Il y a eu des tentatives de déclinaison qui ont pris. Mais là, on sent qu'ils veulent mettre encore plus l'accent. Et notamment avec la possibilité d'acheter des petits packs virtuels.
La collectionnite.
Le problème, c'est que quand tu achètes c'est le père qui parle. Quand tu achètes un paquet de cartes Pokémon, t'as toujours une carte avec un QR code dessus, et ça, c'est la première carte que les gamins foutent à la poubelle. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu as des influenceurs. Les influenceurs qui ouvrent beaucoup de paquets donnent les QR codes gratuitement pour que les gens les récupèrent, parce que ça te permet justement de jouer en ligne avec les cartes que tu as eues dans ton paquet en papier. Parce que tu scannes le code et tu peux du coup jouer ensuite sur le portail. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est JCC slash... Bon, bref. Mais finalement, les enfants le font assez peu. Parce qu'on ne va pas se cacher que même s'il y a un tournoi, même s'il y a des gens qui jouent, il y a quand même beaucoup d'enfants qui achètent les cartes pour les collectionner avant même d'y jouer. Et c'est vrai que du coup, les solutions pour y jouer en ligne... Parce qu'il faut quand même de la place pour jouer au jeu de cartes Pokémon. Hein. Il faut deux tables, il faut la place pour étaler tes cartes avec ton deck, avec le côté les cartes récompenses, etc. Et ça prend un peu de place. Et c'est vrai que la solution de pouvoir y jouer en ligne, c'était bien, sauf que personne ne le faisait. Donc on espère que cette solution-là permettra enfin aux parents comme moi d'arrêter de fouiller dans la poubelle, de récupérer les QR codes en se disant peut-être qu'un jour... Parce que j'ai autour de moi des exemples d'enfants qui jetaient les cartes QR code et qui, une fois devenus ados, genre 17-18 ans, qui plongeaient dans Magic, etc., qui disent hey, « Eh, mais où sont mes cartes QR code pour jouer en ligne et tout ?» Bah, tu les as balancées. « Ah, mais non, mais j'étais trop, machin. » Donc, moi, j'ai toujours cette peur de me dire, quand il sera grand et qu'il, si ça se trouve, ce sera un joueur de cartes et il sera bien content de retrouver les centaines et centaines de cartes qu'il s'est achetées quand il était petit avec ce QR code. Et c'est vrai que si l'appli est bien faite, ça peut prendre.
Je manque à tous mes devoirs, mais cette appli sortira en 2024. Petite précision, Légende Pokémon ZA, lui, il est prévu pour 2025. On pensait que ce serait le Pokémon de fin d'année. Mm-mm. Non, ce sera 2025 sans précision.
Mais comme ils avaient sorti le précédent en janvier, je crois.
Oui, sur les consoles de la famille Nintendo Switch.
Voilà.
Ce qui veut tout et rien dire, mais ce qui laisse la possibilité éventuelle
d'une Switch 2.
Ils ont dit sur console Nintendo Switch
System.
Systems en anglais et de la famille Nintendo Switch, ce qui. Alors évidemment, il y a la Switch OLED, la Switch Lite et la Switch classique.
Est-ce qu'on ne devrait pas découper ce segment en une vidéo avec nos têtes, genre comme ça, la Switch 2, la Switch Family.
On sait, nos révélations. Bah, on sait que.
Hubert est en train d'y penser. Hein,
je peux vous donner l'information. Mais... Il est possible, en tout cas, il est possible que les gens de Pokémon ZA sortent, puisque c'est écrit dans le texte. D'accord. Il se laisse cette opportunité-là.
Moi, je vais vous donner une autre info. Il est possible que Nintendo travaille sur une nouvelle console.
On en parlera tout à l'heure. Là, on va justement parler du Nintendo Direct avant d'évoquer la suite Nintendo Direct qui a eu lieu il y a quelques semaines déjà, avec pas mal d'infos.
Pardon, t'en as fini sur Pokémon.
J'en ai fini sur Pokémon. D'accord. Tu voulais rajouter quelque chose?
Non, à part que...
bah, Nintendo Direct. Nintendo Direct, on a eu pas mal d'infos et surtout pas mal de démos jouables, notamment celle d'Unicorn Overlord. Qui permet de transférer sa sauvegarde. Donc ça c'est bien, c'est un prologue jouable, ça c'est vraiment le luxe, hein. Tu commences et tu peux transférer la save plus tard.
Et du coup,
bah, nous,
polémique.
Ça nous avance. Ah, il y a une polémique,
bah ça. Oui, il y a une polémique. Parce
ah mais
que...
oui, bien sûr, évidemment, mais oui. Tu vas y revenir.
Tu voulais en parler ou pas?
Ah bah non, mais vas-y, je t'en prie, parce que ça me paraît très intéressant. C'est...
Mais du coup, je peux en parler ou...
Oui, ah bah évidemment. Ça concerne la localisation d'Unicorn Overlord et
exactement, donc Twitter...
Divergence de traduction.
Twitter s'est énervé parce que la version anglaise n'est pas exactement comme la version japonaise.
Il y a quand même des libertés qui sont prises.
Il y a des libertés qui sont prises, sauf qu'on découvre que ces libertés en général sont prises à la demande du studio. Donc le coup des défenseurs du Japon qui disent qu'on trahit l'esprit, bah, finalement ils se rendent compte que c'est les Japonais eux-mêmes qui demandent aux gens...
C'est Mishima qu'on assassine.
Voilà, et à tel point d'ailleurs que... Yasumi Matsuno est intervenu.
Créateur de Vagrant Story.
Voilà, pour dire, bah, nous, quand le premier FF Tactics sur PlayStation 1 est sorti en Angleterre, on l'a traduit à l'arrache parce qu'on n'avait pas trop le temps et puis on n'espérait même pas qu'il sorte chez nous, enfin chez vous. Donc il a été traduit viteuf. Et c'est vrai que quand il y a eu le remake sur GBA, la traduction était beaucoup plus travaillée. Sur PSP, pardon, excusez-moi. Non, sur GBA, c'était le 2.
Ouais.
Donc, quand le jeu est sorti sur PSP plus tard,
la
Lions machin, là, la trad a été revue, et même trop revue. Les gens ont dit qu'elle était trop riche, parce qu'ils parlaient tous en ancien anglais, super précieux, super courtois, et ça... Il y a des gens qui trouvent ça trop lourd. Et alors que c'était justement à la demande, suite à la réussite de la VA... de Vagrant Story, c'était une demande de justement laisser liberté aux adaptateurs anglais. Donc le débat se fait sur les réseaux sociaux, il y a des gens pour, il y a des gens contre, il y a des arguments pour et des arguments contre, c'est-à-dire que on peut pas dire oui, il faut laisser toute liberté, ou non, il faut absolument coller aux Japonais au maximum.
C'est des choix.
C'est des choix, mais après il y a aussi des erreurs, il y a aussi des choix, il y a aussi des volontés de transformer. On avait déjà eu ce débat sur FF16, où la version anglaise n'avait rien à voir avec la version japonaise, dont la version française était finalement assez proche.
Et où FF16 changeait un peu quand même
de tonalité.
De tonalité et surtout le caractère de certains personnages, surtout personnages féminins comme par hasard.
Oui. Bref, ça a beaucoup parlé sur cette démo de Unicorn Overlord, donc tant mieux pour eux.
Ouais.
Ça leur fait un peu de pub parce que Unicorn Overlord, ça reste quand même un de mes jeux les plus attendus de l'année, vous aussi j'imagine. Mmh. Et... il va avoir du mal à exister entre tous les
poids lourds.
Voilà.
Ouais, c'est sûr.
Entre Tekken, Dragon's Dogma et FF7, Unicorn Overlord.
Les budgets ne sont pas extensibles, oui, c'est sûr.
C'est-à-dire que c'est tous des suites, c'est tous des jeux connus, c'est tous des jeux de gros éditeurs connus. Unicorn Overlord, c'est une nouvelle IP d'un studio de niche. Ouais. Moi, je lui souhaite le meilleur.
D'où la démo, hein. Je pense que c'était salutaire, au moins pour l'exposition du jeu, au-delà de la polémique sur la localisation. D'autres titres ont été annoncés, notamment un portage de Monster Hunter Stories sur Switch, mais également sur PS4 et PC, Monster Hunter Stories, qui était la Level 5-isation. Donc la volonté de tendre la main de Monster Hunter vers une population plus jeune, avec notamment une série animée, plein de goodies, etc.
Un jeu qui à l'origine était fait par From Software, d'ailleurs, je crois. Le premier, non?
Ah bon?
Il n'était pas sous-traité par From ou Kadokawa, ou un truc comme ça.
Vous le mettez le doute, j'en sais rien.
Je sais plus.
On avait eu un 2 entre-temps, mais voilà, Monster Hunter Stories. Et là,
il n'a pas eu le succès escompté.
Hein. L'été 2024, non. Non.
Il n'a pas eu le succès escompté. Il a vécu.
Pierre Feuille Ciseaux, c'est.
Il
pas
a vécu.
Forcément.
Non, mais non, il a vécu une saison. Il n'a pas été déshonorant, mais.
Les amis, pas très rares. Sachez-le.
Tu sais quoi,
il a pas explosé comme il aurait.
Je viens de me souvenir, From Software, ils avaient fait le Nikki.
Oui, les Félines, tout
les
à fait.
Ouais.
Oui, c'était un petit jeu dérivé sur PSP.
Qui est évidemment pas sorti parce que c'est à l'époque. Il sortait
Monster Hunter. Ah, il loue
des
puzzles
loups.
Ouais, il de lui puzzles.
J'aime bien toujours ces petits apartés. Je l'ai.
Ouais,
les amiibo sont chers.
Je sais pas pourquoi.
Oui, tu voulais vraiment me signifier que t'avais l'amiibo.
Non, l'amiibo de Monster Hunter, oui. Ah, oui, il a gonflé le prix. Bon, alors, on enchaîne avec
quel
Shin Megami Tensei 5 aura droit à. Je l'ai aussi.
Le spin-off de Persona.
aura droit à sa version Vengeance, donc sa version plus alpha améliorée qui comprend le jeu de base et une histoire supplémentaire qui s'annonce tout aussi longue, visiblement. Ils misent sur 80 heures supplémentaires.
Ah bah oui. C'est
vrai. Et sous un autre angle.
Ouais, j'ai envie de dire, est-ce que ce serait pas la framerate édition surtout? Et ça, c'est important hein, pour les amateurs de framerate. C'est vrai que la version...
C'est un RPG, ça va.
Non. Ah non, sur Switch, je pense à mon camarade N6, alias Antoine, ancien CM chez Gamekult, qui avait renoncé au jeu à cause de la technique. Et pourtant, c'était pas le dernier à rechigner sur
d'accord,
Shin Megami
Tensei. Tu peux renoncer à un truc.
Mais non, mais là, c'est bien. Là, au moins, ça va conjuguer le meilleur des deux mondes. On peut être ravi pour les gens qui ne l'ont pas fait. D'accord. C'était une exclusivité en plus sur Switch. Et là,
tu l'avais fini en plus, toi.
Oui.
Super jeu.
80 heures, je sais. Donc, Shin Megami Tensei 5, Vengeance sortira dans le courant de l'année.
Est-ce qu'il y aura un mode facile?
Ah oui, maintenant.
Il y avait déjà une difficulté. Heureusement. Gundam Breaker, pour les amateurs de Gunpla.
Gundam Breaker très populaire
Gundam
dans la commune.
Breaker 2024
le 3 super populaire,
donc qui offre la possibilité de customiser son Gundam pour des combats en arène. Vous connaissez la formule, mais là ça revient sur les consoles actuelles. Il n'y a pas encore de date de sortie, mais bon, vous savez, vous-même vous savez, avec des PS plus ou moins rares et une progression qui se fait comme ça, la possibilité de customiser les différentes couleurs, etc. On y sera. 25 juin sortira Super Monkey Ball Banana Rumble. Alors au début je pensais que c'était un DLC pour un ancien, mais non, c'est un nouveau.
Un nouvel
épisode. Oui.
Ils ont la foi, ces gars.
200 nouveaux niveaux hein, quand même. Coopération à 4 joueurs, multijoueurs compétitifs.
C'est l'argent de Yakuza.
À 16 à 16 hein, quand même. Et bon, voilà.
À 16.
Multijoueur à 16 sur un mec.
Tu pas, même si genre gamin.
Mais bon, je sais pas. Monkey Ball, bon, pour les amateurs du genre, comme on dit.
Oui.
Tu frappes comme ma fille.
On a eu de la chance, durant ce Nintendo Direct, on a enfin une date de sortie pour un jeu Level 5. Et oui.
Alors ça peut arriver. Et en français, en plus.
Et en français. C'est pas Decapolis, malheureusement, c'est Fantasy Life High.
Non, mais Decapolis, il est pour l'année prochaine, déjà.
Oui, c'est vrai. Non, au mieux en 2024, c'est pas ça? Je sais plus, il y en a un qui est comme ça. Bon, Fantasy Life High, la voleuse de temps, tel est son nom en français. Vous connaissez la formule, ça sortira le 10 octobre.
Day One.
Ah ouais?
Ah ouais.
Un Fantasy Life Zouz?
Ah mais complètement, je pense que Fantasy Life c'est un de mes jeux 3DS préférés.
À ce point-là?
Ouais.
Ah, j'ai jamais accroché, tu vois. Comme on dirait pour Mario vs Donkey Kong,
mais
j'ai
jamais
le coup de
cœur. Mais c'est un MMO solo avec un gameplay de action RPG, je trouve ça brillant.
Ah,
et ils ont rajouté
ils ont rajouté
le jeu de pêche et là c'est GOTY. C'est GOTY.
Ah bon, bah,
prends garde à toi DLC d'Elden Ring.
Soyez là pour Summation Turbo en novembre, je pense qu'on parlera de Fantasy Life High en des termes plutôt laudateurs. Suika Game a refait parler de lui et heureusement avec son petit DLC multijoueur qui nous offrira là aussi la possibilité d'une revanche dans Summation Combo, puisque je crois que l'orgueil a été bafoué.
Non, mais attends, tout le monde a vu la mécanique.
Bon, l'avantage c'est que moi j'ai rien à perdre.
La mécanique dégueulasse.
Parce qu'au pire, il y aura une belle. Donc voilà. Donc deux cuves qui sont face à face et plusieurs modes multi, un mode chronométré, un mode versus où tu peux parasiter l'écran de l'adversaire comme dans Puyo Puyo et un mode
comme
survie
quoi,
classique.
L'argent les a fait changer.
Ouais. 2,65€, je crois que je l'ai payé. De toute façon, j'avais pas le choix puisque ma fille l'a exigé. Et elle me met des pilules. Donc voilà, ça, il faut le savoir. Autre jeu purement japonais qui est ressorti des limbes, c'est Pocket Card Jockey.
Voilà.
Qui est
j'avais loupé l'info.
Il y a une démo qui est disponible. Démo en français qui plus est.
Rappelons-le.
Oh, quoi?
Ouais.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un jeu de course hippique, mais en même temps un jeu de solitaire.
Ouais. C'est-à-dire qu'il faut. Donc c'est un solitaire, et en fonction des résultats que tu as au solitaire, ton canasson va aller plus ou moins vite.
Mais pourquoi maintenant?
Je sais pas.
Moi je pense qu'on est.
Je pense qu'il y a des. On est en fin de vie.
On est à ça du jeu de drague des mineurs quand même.
Quoi?
Il y a un concept à explorer là. Et donc plus on gagne et plus notre. On va pouvoir customiser.
J'ai jamais bien joué à ce jeu.
Parce que solitaire c'est compliqué.
Bah solitaire, il y a trop de random dans le solitaire.
Tu sais que le ressortir aujourd'hui, ça lui donne un petit côté charmant que t'as dans les, tu sais, dans les pubs de jeux mobiles.
Ouais.
Tu sais les jeux mobiles nuls dont tu vois tout le temps les pubs.
Bah il est disponible en tout cas si tu le veux.
Mais c'est incroyable.
C'est ouf hein. Bon. Et le dernier jeu, histoire de combler le trou du printemps, le trou du mois de mai chez Nintendo, c'est Endless Ocean Luminous, à savoir une nouvelle déclinaison de Endless Ocean, le jeu d'exploration sous-marine, avec des plongées en multijoueur, cette fois-ci. Voilà. On pourra jouer jusqu'à 30 simultanément, c'est pas rien.
Subnautica pas stressant?
Oui, voilà. Exactement. Et ça sortira le 2 mai.
J'avoue que je suis passé à côté de cette licence et qui compte déjà pas mal d'épisodes.
Ouais, mais toi, maintenant qu'il est un peu adepte de plongée, ça peut peut-être.
Moi, de la plongée ?
Mais non, lui, il monte, il descend.
Ah
pas.
Oui, il monte.
Ah non, zéro plongée.
Je suis plongé, man.
Je suis plongé une fois et tu sais quoi ? C'était dans. Je suis plongé dans une épave de la Seconde Guerre mondiale.
Ah bah, c'est pas mal.
Et j'ai l'impression d'être dans Mario 64.
J'ai fait de la plongée une fois, je referai plus jamais parce que moi ça non m'a plus. Trop stressé, mais j'ai bien aimé ce que j'ai
ah
fait.
Ah non, mais c'est pas du tout pour toi la plongée.
Ah oui, j'ai l'impression que.
Non, moi, juste, c'est une histoire de.
Il y a une merde, je meurs.
Moi, c'est le contraire. Je veux en faire et j'ai pas le droit.
Moi c'est, la moi c'est la pression de.
Oui c'est vrai que c'est mal aux oreilles.
Désolé, il n'y a que Hubert qui peut plonger
de base. Voilà,
bon, Hubert ira visiter des
on
épaves.
On n'est pas soumis à scène plongée ici, hein, quoi qu'il arrive.
Hubert, on compte sur toi pour visiter des épaves nazies et remonter les trésors de guerre.
On va assister sur deux jeux qui ont également été présentés dans le Nintendo Direct. Le premier, c'est Ender Magnolia Bloom in the Mist, qui est la suite de Ender Lilies. Ce Metroidvania un petit peu chelou gothique. Eh bien, celui-là, il aura un Early Access qui va débuter le 26 mars.
C'est japonais.
Oui, studio japonais LiveWire qui replonge, effectivement. Et là, on va pouvoir incarner cette jeune exploratrice qui s'appelle Lila et qui peut donc s'allier à différents types de homunculus pour débloquer différentes capacités. Toujours une belle ambiance assez travaillée. J'avais bien aimé le peu que j'avais joué d'Ender Lilies, mais malheureusement, il s'est retrouvé eh bien, dans un planning particulièrement chargé, celui de Submersion Turbo, mais toujours aussi stylé. Hein. Je sais pas. Un peu lent en termes de déplacement, c'était le principal défaut.
Ah bah c'est un jeu très contemplatif.
Exactement. Et l'autre jeu sur lequel je voulais insister, eh bien, c'est un JRPG du studio Furyu. Furyu, cher à Daniel.
Furyu, tu te souviens ?
Qui a ouvert, oui.
Remember.
Comment il s'appelle déjà le Unchained Blade ? Non, comment il s'appelait ?
Unchained Blade Rex.
Ouais. C'est, en tout cas, c'était sympa.
Il y avait Unchained Blade Xavier.
Eh bien, ah, ils ont payé des piges à des grands noms du jeu vidéo japonais, à savoir le scénariste Kazushige Nojima, dont on parlait tout à l'heure pour Final Fantasy VII. Eh bien, il sera au scénario, au synopsis de ce Reinatis.
Il y a des mecs avec des capuches.
Qui a également la compositrice Yoko Shimomura qui sera bientôt auréolée.
Un achievement.
À la GDC, durant la Game Developers Conference, pour un Lifetime Achievement. Eh bien, elle recevra.
Oh là, attends, il y avait un truc, un blurb en anglais qui ne voulait rien dire.
Et Yusuke Naora, illustrateur, notamment illustrateur de Final Fantasy VIII, mais pas que, hein, bien sûr, d'autres jeux. Mais
Yusuke
voilà.
Naora
ouais. Ah, donc il a signé l'illustration principale.
D'accord,
attention,
oui, tu monsieur. Vois le... merde, comment s'appelait ce jeu-là son grand truc.
Oui,
son jeu Square Enix.
De quel vous parlez
c'était avant.
Ça nous reviendra.
Mais arrête de dire des mots.
Mode supprimé, mode libéré, c'est ainsi voilà. Qu'on alterne entre les réalités des deux personnages. Ça débloque différents bonus en exploration. Ça sortira le 25 juillet au Japon, avec un petit tempo. Voilà, il y aura un petit décalage avec la sortie européenne, ce qui nous laissera une petite fenêtre de tir pour en parler en apport, si on a du temps durant cet été.
Ouais, t'as vu, on peut se balader dans Shibuya déguisé en Asie.
Et oui, c'est Shibuya, bien sûr, évidemment, avec le 109, etc. Vous connaissez les repères. Et c'est un peu le The World Ends With You, mais un peu plus dark, qui sait.
Avec plus de capuches.
Bon, est-ce que la prochaine Nintendo Switch sortira début 2025? C'est ce que suggère le Nikkei, et pas que lui, mais enfin quand le Nikkei
quand
suggère.
Le Nikkei suggère
Moi, je veux juste un zoom sur le visage de Puyo quand je vais dire ce titre.
Attends, on parle de la Switch 2.
Non, vas-y. Zoom sur le visage de Puyo. T'es prêt?
Ouais.
The Last Remnant.
Ah oui.
Ah.
C'était lui, c'était Cara Designer de The Last Remnant.
Oui, exact.
Bon. La Switch 2 sortira-t-elle en mars 2025? C'est ce que croit savoir le Nikkei. Et souvent, quand le Nikkei croit savoir, c'est quand nous on est.
C'est que le Nikkei sait.
J'allais dire, on va Nikkei ce soir. Mais en tout cas.
Oh, c'est nul, lamentable.
Ah, je l'ai préparé. Bloomberg.
C'est vrai,
aussi...
t'as préparé ça.
Ouais. Voilà. Bloomberg le prévoit également pour le mois de mars. Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient caler leur planning? Sachant que normalement, elle est censée avoir un petit retard à l'allumage.
Donc ce ne sera pas mars.
Non, il y avait des pronostics comme quoi elle arriverait en fin d'année. Et non. Finalement, histoire d'avoir un catalogue de lancement plus étoffé, et elle aurait été repoussée quelques mois plus tard, en mars 2025, qui permettrait finalement de se caler sur un planning un peu à la Nintendo Switch numéro 1.
La première Switch qui est sortie en mars.
En mars,
hein.
C'est ça. Ça n'a pas empêché de cartonner.
C'est une date traditionnelle pour les consoles Nintendo. Mais si tu me dis qu'ils temporisent pour avoir plus de matos...
Qui sait ? De toute façon, on aura des précisions comme on l'a dit.
Sur quelle date tu temporises ? Genre, si tu ne pouvais pas mars et que tu temporises pour être plus loin...
Tu peux sortir en juin comme la N64.
La juin, ils ne le feront plus.
Mais ce qui est certain, c'est que quoi qu'il arrive, courant mai, il y aura la publication des résultats officiels, des résultats financiers. Là, tu ne peux pas forcément tricher avec les actionnaires. Tu es un peu obligé de donner quelques petites billes. Donc, on aura peut-être un petit peu plus de précisions. Pour l'instant, Shuntaro Furukawa, le PDG Nintendo, dit « Nous vous encourageons à faire preuve de discernement en vous basant sur les informations que nous fournissons sur nos sites web officiels et nos comptes de médias sociaux. »
Autant dire... La société ne commande pas les rumeurs.
Les rumeurs et les spéculations, mais mieux dit. Voilà. On va ouvrir une autre page. Cette fois-ci, ça concerne Sony. Et c'est une page un petit peu moins glorieuse, reluisante. Ça s'est passé cette semaine. C'était mardi. On a appris avec fracas le licenciement de 900 personnes et notamment la fermeture de toute une branche anglaise de London Studio qui bossait notamment sur les projets réalité virtuelle.
C'est très malin hein, quand tu sors un casque.
Ils ont fait Blood and Truth. Ils avaient fait notamment ce genre de projet-là, PlayStation VR Awards. Bon, visiblement, la VR n'est plus à l'ordre du jour à l'heure où l'on parle de rendre compatible le casque PSVR 2 sur PC. Un casque PSVR 2 qui n'a forcément pas eu le succès escompté. Hein, si
étonnant.
On n'a pas de chiffres, mais entre l'absence de rétrocompatibilité et la disponibilité assez erratique.
Plus le catalogue.
Et surtout le catalogue, qui n'est ni rétrocompatible ni étoffé. C'est vrai que ça. Bah, du coup, j'imagine que chez Sony, ça a pris des décisions assez drastiques.
Des décisions de merde.
8% du personnel de Sony Interactive Entertainment.
Mais qui sont étendues à tous les studios de affiliés à Sony, dont le studio de Spider-Man. Enfin, c'est gros.
Insomniac, Naughty Dog, Guerrilla ont été sommés, eux aussi, d'adopter le fameux 8% d'effectifs. Voilà, et
comme quoi, tu peux sortir des jeux qui sont vendus à 20 millions d'exemplaires, mais t'es pas à l'abri, quoi.
Tu peux faire plus de 90% sur.
Tu peux générer 1 milliard d'euros de bénéfices à l'année et décider que tu ne marches pas suffisamment. Voilà. C'est-à-dire qu'ils gagnent énormément d'argent, mais pas suffisamment par rapport aux promesses qu'ils ont fait miroiter aux actionnaires.
C'est ça. C'est-à-dire qu'ils virent les gens qui ont suivi leurs ordres, alors qu'au final, ceux qui devraient dégager, c'est ceux qui ont fait les mauvais choix. Ouais.
Parce que ça veut dire que toute la politique visant à étoffer les jeux services et le PlayStation et la réalité virtuelle sont tués dans l'œuf désormais.
Oui, mais parce que c'était un mauvais choix des dirigeants. C'est-à-dire que si le studio de Londres est devenu une branche spécialisée dans le casque VR, c'est parce qu'il y a un mec en cravate tout en haut qui a dit « Oh, les casques virtuels, machin, hop !» Et puis en fait, c'était très cher, ça n'a pas marché. Les gens, ils voulaient, comme d'habitude, une PlayStation pour jouer à FIFA et à Tekken. Et ils se sont dit « Ah bah tiens, comme beaucoup de patrons d'ailleurs, hein, ils se sont dit « Bah voilà, on fait 100%, mais je suis sûr qu'en forçant un peu, on pourrait faire 110%. » Résultat, ils ont épuisé des gens. Parce que quand tu es à 100% et que tu veux faire 110%, les 10% supplémentaires te demandent une énergie extraordinaire. Et le problème, c'est que cette énergie, elle a été donnée. C'est-à-dire que les employés ont vraiment... Enfin, le contrat a été rempli. C'est-à-dire le PSVR 2, il est sorti avec des jeux qui étaient là, qui étaient de qualité, qui étaient prêts. Et puis un an plus tard, on dit « Ah bah non, en fait, on s'est trompé. C'est pas ça qu'il fallait faire. Salut !» Enfin, c'est horrible. C'est-à-dire que...
Et rappelons...
Au lieu de se dire, ok, on a pris une mauvaise décision, donc on prend nos responsabilités, on arrête d'être des patrons nuls, ils disent, bon bah, pour pouvoir continuer à faire des choix nuls, on est obligé de virer les gens qui ont suivi nos ordres. Enfin, c'est une fois de plus, une injustice criante.
Rappelons deux choses qui sont importantes, c'est que Nintendo avait eu, au moment de la plus grosse de sa crise récente, avait, sous l'impulsion d'Iwata, avait choisi justement de garder tout le monde en disant, bah, on peut pas.
Ce sera une perte de savoir-faire, on peut pas motiver les gens s'ils ont peur pour leur travail.
Et c'est le fameux quote de Iwata. Ils avaient vraiment minimisé les pertes dans le monde, hein, sur une petite société de petits artisans.
Non, mais ne me laissez pas croire que Sony n'a pas de trésorerie.
Non, bien sûr, ils gagnent des milliards. Enfin, je veux dire, la masse salariale de Sony, c'est pas ça qui coûte le plus cher, hein, le recherche et développement, la publicité.
C'est ce qui réduit sa marge opérationnelle.
Ouais. mais du coup, faut rappeler, donc, je citais l'exemple de Nintendo. Au Japon est moins touché par ça, déjà, parce que Sony avait essentiellement.
Ils ont quand même fermé Team Asobi bien avant. Hein.
Ils avaient fermé. Mais sous l'impulsion des Américains.
Ils avaient fermé les studios japonais avant. Et au Japon, tu fais pas de grosses vagues de licenciements comme ça. En général, tu planques ça. Soit tu fais un déménagement, et tu t'emmènes pas tout le monde, ou tu incites au départ à la retraite.
Oui,
tu les mets dans des salles de sport.
Le message assez ironique de Jim Ryan qui a été publié à l'annonce de ces licenciements. Ça, c'est assez incroyable. La prochaine fois, comme on en plaisantait sur notre canal, là, on disait la prochaine fois, ils vont carrément mettre la convo Zoom en pièce jointe de l'annonce des licenciements pour essayer de jouer la carte de la transparence et de.
Ce qu'ils ont fait sur Twitter. Sur Twitter.
Où ils donnent le détail des régions qui sont impactées au fur et à mesure et disent le Japon, on va parler de reconversion professionnelle pour les différents talents qui doivent nous quitter. Mais je trouve l'exercice de transparence alors à la fois salutaire et en même temps assez
inhumain.
Assez inhumain parce que tu es exposé, tu apprends ton licenciement en même temps que les fanboys Sony pour essayer d'éviter le maximum de shitstorm et je trouve ça assez
Et le pire c'est que tu auras toujours des fans parce qu'il y a des fans de toutes les marques. Des gens qui vont dire ouais, ils ont raison, il faut s'alléger et tout machin et puis tu vas voir ça alors que tu viens de perdre ton job. Enfin, il y a des gens qui étaient au studio de Londres de chez Sony que je connais depuis la PlayStation 1, depuis plus de 20 ans. Et ils ont construit toute leur vie autour de ça. Et là, les casques VR, c'était une mauvaise idée. Salut.
Alors vraiment le caractère inhumain de la procédure. Alors, et il faut juste dire un truc, c'est que Sony, c'est pas exclusivité.
Ce n'est pas un cas isolé.
Non, mais bien sûr.
On parle de Sony parce que c'est une entreprise japonaise.
On parle de la plus grande saignée qu'il y ait jamais eu
deux, trois semaines précédemment, Microsoft faisait un carnage entre ça
et tous les studios.
Et Electronic Arts en a annoncé un ce matin.
Electronic Arts. Epic,
tu possèdes Fortnite, mais tu vas virer les gens quand même. Ça n'a aucun sens. C'est
sans parler de leur partenariat avec eux, Disney.
Je pense que on a un gros problème là depuis 2 ou 3 ans où il y a une vraie disparition du savoir-faire dans les studios de jeux vidéo occidentaux. Là où les Japonais arrivent à se recycler, vraiment toutes ces écluses de ces brouettes de licenciements, comme disait Iwata, tu perds un savoir-faire parce que derrière tu utilises des prestataires, donc tu n'as plus rien en interne. Donc, il suffit que tu tombes sur l'équipe A, tu as un bon jeu. Tu tombes sur l'équipe B, le jeu est moins bien. Et ça devient... tes jeux vidéo deviennent des coups de poker. Enfin, tes prods deviennent des coups de poker. Et ça devient très, très
surtout
bizarre.
Surtout des coups de poker à 500 millions. Quoi. Oui, c'est ça le problème. C'est que les budgets sont tellement gigantesques.
L'échec n'est
pas permis.
Ils ont demandé aux studios qui ont fait Horizon et tout ça de virer des gens. Ouais. Ça n'a aucun sens. Ouais. Ils n'ont jamais fait autant de blé.
D'ailleurs, tu parlais d'augmentation des budgets. Même Arada a parlé il n'y a pas si longtemps du coup.
La différence de conception entre un Tekken 2 et un Tekken 8, par exemple.
Que Tekken 8 aujourd'hui lui demande, c'est-à-dire, il demande de. Aujourd'hui, il y a le jeu en ligne, le jeu réseau, il faut faire du jeu service, il faut faire du jeu total, faut boxer sur tous les tableaux possibles, alors qu'avant, le jeu, il sortait sur la galette, il n'y avait même pas de mise à jour, voilà, c'est bon.
Tu passais à la suite.
Tu passais à la suite. Là, maintenant, il faut faire du jeu service, il faut suivre, et que ça continue de te coûter de l'argent, même après la sortie du jeu.
Alors que le jeu est le même prix.
Ouais.
Enfin, c'est toujours 50€, 60€.
Le jeu est le même prix, et surtout, t'as pas la garantie d'avoir un rendu, t'as pas d'un retour sur ton investissement, en sachant qu'en plus Tekken, prenons cet exemple-là, a coûté démentiellement, on l'a vu en termes de qualité et de structure, c'est un jeu qui a coûté excessivement cher.
Ouais, avec des coûts de production exponentiels aussi, tu peux plus te contenter d'un semi-succès. C'est ça le problème, c'est qu'avant, tu pouvais vendre un million d'exemplaires et c'était tu entrais complètement dans tes frais de production. Là, désormais, t'es obligé de viser les 10 millions sur des projets aussi gigantesques.
Tu peux avoir
Et même sans ça, t'es même pas protégé derrière.
Ouais, tu peux avoir un micro-succès, mais il faut avoir un FF14 qui rentre de l'argent tout le temps. Voilà, par exemple.
Dans le cas
ou
de
Fortnite.
Oui, non, même pas. C'est-à-dire que tu n'es même plus protégé en cartonnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui.
T'imagines, Insomniac, t'as réussi à sortir 2 Spider-Man d'affilée, un Ratchet & Clank, et on te dit.
Deux Spider-Man d'affilée.
C'est pas assez.
Ils en ont sorti 3.
Oui, Miles Morales, bien sûr. Ouais. Oui.
Non, mais c'est pas. Ah, vous n'avez vendu que 25 millions de jeux. Ouais.
Littéralement, ils ont vendu le jeu Sony le plus. Enfin, la plus grosse vente Sony de tous les temps, c'est Spider-Man. Et ça n'a pas suffi.
Tu n'es plus protégé parce que il faut maintenir le salaire des patrons qui font des mauvais choix.
Et surtout les rendements, les dividendes des actionnaires.
Et il y a un autre truc qui rendra à terme tous ces gros développeurs, je parle principalement américain, Xang, c'est qu'au fur et à mesure, cette insécurité, cette précarité, ça fait perdre aussi les meilleurs éléments qui se disent je ne vais pas rester sur le jeu vidéo. Je vais
Parce que, évidemment, si tu es un super graphiste ou un super statisticien ou un super programmeur, tu dis je vais aller bosser dans une banque.
Ou dans une banque, ou tu as Apple, enfin les autres. les GAFA, enfin, je veux dire...
Bon, les GAFA, c'est pas aussi les meilleurs exemples en termes de licenciement, mais c'est
bien
sûr que oui.
Non, mais limite, tu dis, je vais dire freelance, quoi.
Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que à terme, c'est un truc qui va faire peur à l'industrie tout entière, et ça se voit, quoi. Enfin,
c'est grave, hein, ce qui est en train de se passer. Du jeu vidéo n'a jamais été aussi fragile, alors qu'elle n'a jamais généré autant d'argent.
Je dirais l'industrie du jeu vidéo occidental. Parce que au Japon, ils s'en sortent mieux. Le yen est bas, donc la vie au Japon, c'est pas forcément la joie non plus. Mais le jeu vidéo japonais ne s'est jamais aussi bien exporté.
Et attention, bien sûr, ça, on l'a souvent dit, c'est pas parce qu'on aime le jeu vidéo japonais et qu'on en parle, qu'on idolâtre aussi la structure. Le monde du travail au japonais, on a beaucoup d'échos de la part d'amis communs qui sont dans l'industrie. C'est très différent, et aussi il y a aussi une précarité aussi qui est en train de s'installer au Japon, où au Japon, juste par exemple, ils ne payent pas assez, en fait. Simplement, les éditeurs, quels qu'ils soient, les salaires sont trop bas par rapport aux montées de la vie, et on le voit en ce moment, il y a une espèce de bulle qui est en train de se créer au Japon. C'est que le Japon était ultra moderne. On disait que c'était dans les années 80, on disait que c'était les années 2000, et bah en fait ils sont restés dans les années 2000 économiquement parlant, en fait. Et il y a un truc qui est en train de se passer d'assez dangereux, en fait, sur le terme de pouvoir d'achat, qu'on le voit pas que dans l'industrie du jeu vidéo, mais dans toute l'industrie tout entière du Japon.
En tout cas, tout ça pour dire que le cynisme de Sony est...
Enfin, surtout quand Jim Ryan...
Il laisse pas une bonne...
Ah, Jim Ryan fait son pot de retraite international en se baladant de studio en studio, où on voit les selfies, notamment avec les équipes de PlayStation London. À 3-4 jours de l'annonce de leur licenciement massif. Alors peut-être qu'ils étaient au courant, mais enfin,
lui était au courant.
Je pense que c'est difficile pour un grand patron de Sony Interactive Entertainment d'ignorer que tu vas demander des sacrifices de cet ordre.
Bravo, Jim, vraiment.
Après avoir fermé Sony Japon.
Ouais, repositionnement stratégique chez Microsoft également, et ça concerne un jeu japonais, puisque Hi-Fi Rush fait partie de la sélection de jeux Xbox Game Studios qui fera la trajet sur les autres plateformes.
La ségalisation de Microsoft.
Il sortira sur PS5 exactement le 19 mars prochain, au même titre que Grounded ou Sea of Thieves et Pentiment. Voilà, bon, Hi-Fi Rush, c'était l'une des grandes surprises de l'année 2023.
Très, très bonne surprise.
Sorti à l'issue d'un développeur direct, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle exactement.
Ah oui, il était dispo le jour même.
Dispo en Shadow Drop du studio Tango Gameworks de Shinji Mikami. Et à la fois beat'em up, jeu musical, un jeu qui avait tapé dans l'œil de Hubert, hein, si vous avez su les Summer Games Awards. Eh bien, il l'avait mis dans ses grands coups de cœur.
C'était mon coup de cœur aussi, partagé avec Hubert.
Bon, on parlait de jeux qui prennent du temps. On parlait de jeux exigeants. Mmh. On sait qu'on va avoir un agenda très chargé jusqu'au mois d'avril. Eh bien, préparez-vous également pour le mois de juin, puisque c'est à ce moment-là que sortira l'extension d'Elden Ring, Shadow of the Heart 3.
Ah là 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 là.
Eh oui, 23 millions d'exemplaires d'Elden Ring, c'est normal de sortir un DLC.
On a vraiment un gros rendez-vous par mois, là. Putain. Ouais. Lutin.
Lutin, eh oui. Alors, il n'y aura pas de lutin, il y aura des boss gigantesques dans ce jeu, une dizaine de boss supplémentaires à affronter. J'espère des boss uniques, hein, et pas des clones de clones.
Un DLC assez cher en plus.
Hey, le prix d'un jeu, quasiment le prix d'un jeu complet.
39 ou 49, je ne sais plus.
Et 39. 40.
Ouais, 39,
entre 40 et 50 euros.
40 balles.
Ouais, 40 euros.
Bon, a priori, le DLC fait 40 heures. Donc.
On y accédera depuis le cocon de Mikaela pour une zone qui se veut aussi vaste que Nécrolimbe. Et ça s'annonce tout aussi costaud. Et on fera la connaissance de Mesmer l'Empaleur.
Et je rappelle un truc, c'est que From Software a sorti à ce jour, à mon avis, ce qui est le meilleur DLC au monde, à savoir celui de Bloodborne.
Ouais, The Old Hunters.
Ah ouais. Ouais, extraordinaire DLC. Extraordinaire, je pèse mes mots. C'est bon comme un des meilleurs jeux vidéo tout court. Ouais. Juste le DLC, quoi.
Il sera là, il a sa petite édition collector avec sa belle figurine.
À 260 euros.
À 260 euros, mais qu'est-ce que c'est que 260 euros,
putain de nerd.
Quand on est fan de From Software, voyons. Bon, 23 millions d'exemplaires, hein, ça monte. On va parler justement de chiffres de vente, tiens, tant qu'on y est. On avait évoqué durant le live de Summer Massive Turbo les ventes de Persona 3 et l'autre de Like a Dragon 8, de Grand Blue Fantasy Relink. Banir Automata, on l'a dit tout à l'heure dans les recos, 8 millions d'exemplaires, hein, en physique et des maths. Soit 1 million de plus que les chiffres qui avaient été communiqués en novembre 2022. Donc ça veut dire que ça continue de drainer un public toujours plus large, soucieux de découvrir 2B, A2 et 9S. Et ce jeu cher au cœur de Daniel, on le sait.
Moi, je pense que c'est un des grands jeux de la décennie.
Ouais. Bah, il n'a pas encore fait de 8 millions, mais il cravache pour les atteindre. C'est Tales of Arise. Grand, lui aussi, grand JRPG de la décennie. 3 millions d'exemplaires. Hein, c'est pas rien.
C'est quoi depuis si le 21 cher février. À ton cœur comme à tel, je respecte.
En plus, il est disponible sur PlayStation Plus et Game Pass. Alors, sauf les offres Core, les offres Essential, les offres des moins bien lotis. Et bah voilà, ça continue de se vendre. C'est bien pour un JRPG de cette qualité, de cet ordre.
Tout à fait. Ah,
voilà, formidable.
Regardez les yeux pétillants de Puyo.
Tekken 8 Tekken 8, le jeu dans lequel je suis tombé. Ma grande surprise.
Pardon.
Tekken 8, bah lui démarre en trombe, 2 millions de ventes en l'espace d'un mois. Ça valait bien une petite feuille de route et l'introduction d'un Tekken Shop. Bah oui, parce que
allez.
Voilà, maintenant que les tests sont tombés, maintenant que les gens ont acheté, bah on va vous mettre quelques petites microtransactions. Hop, on a déverrouillé l'option. Donc voilà, le Tekken Shop avec des costumes disponibles. Là, on voit la feuille de route.
Les costumes sont chouettes. Hein.
Ouais, on voit la feuille de route avec évidemment Eddie Gordo qui nous attendra dès le printemps. Il y aura également en collection été, collection automne, collection hiver. Oui, les costumes sont chouettes, mais ils valent 3,99€. Hein, donc,
pièces.
Oh, donc ils sont chouettes, mais ils sont, ça se mérite quoi. Il y aura également des contenus gratuits, à ce qu'on nous dit, et surtout le patch d'équilibrage arrivera, lui, dans le courant du mois d'avril. Attention au Rage Quitter, le stick du ban va se... Il va vous mettre un petit coup de matraque si vous êtes trop là après un Rage Quit, ce qui n'est pas notre cas, évidemment, parce que, on rappelle, nous sommes sortis invaincus de
invaincu,
ce grand tournoi. Alors, si vous lui assez de combo,
il y a un mec dans le public qui disait dommage que c'est pas tombé sur moi. Ouais.
Oui, vous aurez éclaté, vous savez même pas garder, on m'a dit. Mais bon.
J'en profite, puisque donc, comme on encourage les gens à mettre des commentaires sous les vidéos, c'est aussi parce qu'on les lit. J'en profite, il y a des gens qui ont joué à Tekken avec plus d'attention que moi ou qui ont plus naviguer dans le menu d'options que moi, m'ont signalé qu'un de mes principaux griefs contre Tekken 8, c'est que c'était un peu trop disco, avec trop d'effets de lumière, etc. etc.
Oui, mais retiré.
Et en fait, dans les commentaires, quelqu'un m'a dit « Mais Greg, tu peux les baisser dans les options. » Donc voilà, dont acte, voilà, pour dire que... Enfin, tu vois, c'est important. C'est important de dire aussi quand on s'est trompé ou quoi. Non, je voulais y rejouer pour... notamment parce que quand j'ai mis ma note, j'avais pas pu bien y jouer en ligne. Donc, je pense que j'aurais pu remonter la note en y jouant en ligne parce que j'avais été choqué, j'avais dit que les personnages étaient vraiment un peu lourds à mon goût. Mais je pense qu'une fois que tu t'y habitues, ça va mieux. Et donc, j'essaierai de lui redonner sa chance un peu plus tard. Une fois que j'aurai découvert la fin des serpillères volantes. Mais voilà, je voulais signaler ça. Je voulais signaler aussi d'ailleurs aux gens qui nous ont reproché, enfin qui m'ont reproché un petit peu dans les commentaires, voilà, d'avoir un peu trop insisté sur Grand Blue.
Ah, le Lore Gate.
Voilà. Alors c'est pas le Lore Gate, c'était plutôt. Alors le Lore Gate, c'est surtout qu'on m'a beaucoup reproché de parler que des défauts, et c'est vrai qu'effectivement.
Par rapport à la note derrière.
Alors déjà, je m'en excuse. C'est juste que j'étais. J'en attendais tellement de ce jeu qu'il a fallu que tout ce que j'ai fait sur le cœur ressorte.
Tellement et longtemps.
Voilà. Ah oui, non, c'est un jeu que j'attendais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que Grand Blue, comme je l'ai dit, j'ai pas réussi à y jouer au moment où il est sorti sur les téléphones au Japon. Et donc, du coup, j'étais curieux de savoir ce que c'était. Et puis, bon, voilà, les personnages m'attiraient énormément et j'en attendais beaucoup. Et au final, j'ai été déçu de ce qu'on a eu. Alors que en soi, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est juste que j'en avais gros sur la patate et il fallait que ça sorte. Mais oui, effectivement, on m'a dit que j'avais même pas parlé des musiques qui sont vraiment de très bonnes musiques, oui, il faut le dire, que le système de jeu, comme tu l'as dit, est très bon, que c'est un excellent action RPG dans lequel
il faut parler de ton ressenti, hein,
voilà. Et il y a aussi un autre commentaire qui a dit que en fait je m'étais très mal débrouillé puisque lui et ses potes avaient réussi à jouer au jeu dès 2016. Excusez-moi, j'avais peut-être pas trouvé le bon tuto. Voilà.
Très bien.
Donc voilà, je retire ce que j'ai dit. Il était possible, en craquant un téléphone japonais en 2016, de jouer à Grand Blue Fantasy, ce à quoi je n'étais pas parvenu, malheureusement.
Très bien. Eh bien, on va terminer. Allez, on est dans la dernière ligne droite de cette émission avec quelques petites infos en vrac. La team Asano, la team de Bravely Default, la team d'Octopath Traveler, a soumis à la communauté quelques idées de projets. Ouais, c'est ça, à la communauté, quelques idées de projets pour des jeux sur téléphone. Avec d'un côté un city builder, de l'autre un dungeon RPG en 3D et enfin un puzzle RPG avec la possibilité de retrouver les différents personnages de ces univers, donc lequel aura le plus de votes et lequel se concrétisera, on ne sait pas encore, mais en tout cas, ils ne comptent pas lâcher de sitôt les univers qu'ils ont contribué à créer. Rise of the Ronin, qui sera l'autre gros jeu du mois de mars. Enfin, il y a plein de jeux en mois de mars, mais Rise of the Ronin en fait partie. Le Ghost of Tsushima slash Nioh de Team Ninja, il arrive 22 mars. On a appris qu'il y aurait du co-op à 4, ça c'est déjà plutôt sympa, et on a appris également qu'il ne sortirait pas en Corée. Enfin,
t'as pas peur que ce soit le bazar à 4?
Si, mais alors je sais pas si c'est pas limité à certains moments, endroits, à certaines zones, on ne sait pas encore exactement. Et l'autre, c'est que le jeu ne sortira. En fait, c'est une confirmation, il n'a jamais été annoncé en Corée du Sud, mais on sait désormais qu'il ne sortira jamais, pour notamment toute une question.
Polémique,
toute une polémique
sur l'histoire. On rappelle la polémique ou pas?
Ouais, je veux bien. Greg, si tu te rappelles du.
Le producteur du jeu admire un philosophe japonais. Il l'a comparé au Platon. Japonais.
Socrate. Shuin Yoshida.
Voilà, il l'a comparé au Socrate japonais en disant c'est un très grand philosophe qui avait une belle vision pour la construction d'une nation forte, etc., etc. Sauf qu'on oublie de dire que ce monsieur avait dit que pour le bien du Japon, ça serait bien d'écraser la Corée et de prendre possession de ses terres. Bon, pas ouf. Donc, évidemment, polémique sur le net coréen.
Parce que c'est une figure historique que l'on retrouvera dans le jeu.
Ah voilà, donc du coup, polémique sur le net coréen, et donc en réponse, donc Sony Corée, puisqu'il y a une branche coréenne de Sony, a dit « Non mais TKT, le jeu ne sortira pas chez nous ». Ce qui est assez triste, parce qu'au final, pour l'expression d'un seul homme, on va priver les gens d'un jeu qui a l'air excellent, et qui a été réalisé par plus de 300 personnes qui, elles, n'ont peut-être rien à dire.
Il n'était pas prévu à la base, hein. C'est même pas la polémique qui a fait que le jeu ait été annoncé. Il n'a jamais été annoncé en Corée du Sud.
Ouais.
Je crois que c'était entendu qu'il sortirait.
À vérifier.
Bah, en tout cas, c'est ce que Sony a dit, et c'est visiblement ce que tous les trackers du PlayStation Store montrent également. Nobuo Uematsu. Oui. Le compositeur illustre de Final Fantasy a 65 ans et forcément il est proche du début de la retraite que du début, et il a admis qu'il n'avait plus l'énergie nécessaire pour s'investir dans les années de travail que représente une bande originale complète. Sa dernière œuvre date de Fantasian, c'était le jeu sur téléphone de son compère Hironobu Sakaguchi. Mais voilà, il a évoqué un petit peu ses journées, son quotidien, et il admet que ça lui demande beaucoup d'efforts pour réussir à composer de nouveau.
Non, mais il va faire de la musique d'un jeu. Il va faire de la musique d'un jeu.
Bon, écoute, il a fait une chanson pour FF7.
Il a fait la chanson de FF7 Rebirth, qui est d'ailleurs plutôt stylée. Quelques petites nouvelles d'Ikumi Nakamura.
Ah.
La conceptrice du studio qui s'était fait remarquer lors d'un E3 ou d'un Summer Game Fest.
Oui, tout à fait.
E3, je crois qu'on en a fait encore. Le studio Unseen a montré quelques ébauches de Kemuri, qui sera le prochain jeu centré autour des yokai. Alors c'est plus une note d'intention qu'un projet actuel, on voit vraiment des choses assez early, comme on dit, mais ils essaient de s'inspirer de certaines mécaniques d'exploration du monde ouvert, et ils ont recruté dans de nombreux studios chez Insomniac, chez Guerrilla Games. De chez Guerrilla Games, il y a une conceptrice, il y a le directeur de l'animation qui vient de chez Ubisoft, un ingénieur qui vient de Dontnod. Bref, une équipe cosmopolite et au chevet de ce projet.
Ikumi Nakamura qui a sorti, je crois, il y a un ou deux mois, un bouquin d'Urbex.
Ah, très bien.
Qu'elle fait des photos d'Urbex aussi.
Très bien, très bien. Un petit peu de rétro gaming, si l'on ose, avec Ninja Cop. Je sais pas si vous connaissez Ninja Cop. Là, je vais encore dire je l'ai.
Ah, ben oui,
je vais encore dire je l'ai, et tu vas me dire,
c'est un vieux jeu.
Vieux
de Konami,
jeu Game Boy Advance, vieux jeu signé Konami. Un jeu très rare.
Non, c'est Ninja 5O.
Ninja 5O aux US et Ninja Cop chez nous.
D'accord.
Eh bien, il ressortira, comme il coûte la bagatelle de 600 voire 1000 euros. En fonction de la provenance, Konami et Limited Run Games ont décidé de le rééditer pour le mettre à disposition du plus grand nombre avec ce Carbon Engine qui permet de remettre au goût du jour certains des jeux de l'époque sur grand écran. Notamment, les pixels sont très pixelisés, mais ils le sont moins que si vous jouiez sur
un écran étiré.
Et voilà, et ça sortira très prochainement. On sait que Konami et Limited Run, c'est une affaire qui marche, puisque c'est à eux que l'on doit les ressorties. On avait déjà évoqué de Rocket Knight et de Félix le Chat. Voilà. Is this Nordics?
Mais il était très bien, ce Félix le Chat, en plus.
Ouais. Is This Nordic sortira cet automne. On l'a déjà chroniqué dans cette émission, mais il sortira cet automne.
On a même fait un combo.
En français sur PS5, PS4, Switch et PC. Donc c'était bon de le préciser. Et enfin, on ne voudrait pas quitter cette émission sans rendre hommage à Yoshitaka Murayama, qui est disparu. Le créateur de Suikoden nous a quittés. On aurait dû lui rendre hommage durant le live. On le fait dans cette émission. C'est le créateur de Suikoden et malheureusement, il ne verra pas la trajectoire de sa dernière œuvre. Eiyuden Chronicle 100 Heroes, elle-même inspirée de ses premières créations de RPG chez Konami.
Sera sans doute dédié.
Un jeu qui lui sera sans doute dédié. Il est disparu à un jeune âge, 55 ans. Et voilà, les autres créateurs de Suikoden et d'Eiyuden Chronicle lui ont rendu hommage dans un post de blog en lui disant qu'il regrettait que son travail acharné sur Eiyuden Chronicle ne pourra pas être partagé, enfin il ne sera plus là pour voir les réactions du public qui attendait ce titre particulièrement attendu pour tous les fans de Suikoden et pour tous les fans de JRPG en règle générale. Voilà, on en a fini pour ce Sumimasen Turbo épisode Final Fantasy VII Rebirth.
Ouais.
On vous remercie d'avoir suivi, qui était...
On donne plus les numéros.
De
Sumimasen.
Ah, si, je l'ai dit. Je peux arrêter de le dire dans l'émission, épisode 13. On remercie évidemment toutes celles et ceux qui l'ont suivi, qui sont arrivés jusque-là, qui écoutent bientôt les notes du générique de fin. Très apprécié. Dubert également, qui était là en régie pour non seulement réaliser, mais ensuite pour monter...
Hubert qui va prendre ma place pour le Director's Cut.
Pour le son, pour tout ça, et qui sera présent pour le Director's Cut également. Voilà, et merci à vous, messieurs, d'avoir été...
Merci à toi, Puyo, d'avoir gardé le rythme.
Oui, ouais.
Le rythme de la Corée.
C'est pas simple, il faut savoir qu'on fait des petites pauses de temps en temps, et voilà, après, il faut réussir
à se remettre
nos émotions. Merci encore une fois à tous ceux qui rendent cette émission possible chaque mois par leur soutien sur Patreon, patreon.com/soumimasen, leur soutien sur YouTube, leur soutien sur les réseaux sociaux, sur les petits pouces qu'ils laissent ici ou là. Mais
et en parlant autour d'eux de cette émission,
autour d'eux, voilà.
En partageant la vidéo, en partageant le...
En disant, regarde ce qu'ils ont dit sur FF7 Rebirth, il a mis 8, il a mis 9. Voilà, ce genre de petit...
La polémique
FF7 Rebirth, là, il y a pas vraiment.
Ils ont dit qu'il y avait des serpillères.
Ouais, c'est vrai, des serpillères volantes. Mais merci encore une fois pour cette nouvelle émission. Nous, on se retrouve le mois prochain. Pas de live intermédiaire cette fois-ci.
Sumimasen
Turbo épisode 14 arrivera début
avec
avril.
Avec un gros.
Mais un gros programme.
Gros programme, puisqu'on a deux très gros jeux. Plus
le dogme du dragon.
Plus les
le
trucs.
Deuxième
plus les jeux qu'on n'a pas fait. Par exemple.
Unicorn.
Crayon Shin-Chan, j'ai pas eu le temps de squatter, mais voilà.
Macross First Insight.
Ah, ça y est,
il live, mi-mars.
Mi-mars.
Bon, Shooting Inside.
Ça, c'est acté.
Voilà. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. Jouez bien, sans doute, à Final Fantasy VII Rebirth, entre autres. Et nous, eh bien, on revient début avril pour Sumimasen Turbo. Ciao à tous. Bye bye.
Salut Nora. Et merci, Hubert. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。